Actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, l'antenne vous appartient et ce matin, nous lançons le débat sur les commissions réconciliation en Afrique. Rappelez-vous, il y a 20 ans, l'Afrique du Sud mettait en place la commission vérité et réconciliation pour faire la lumière sur tous les crimes commis durant l'apartheid, tout en accordant, et c'est ça la particularité, la spécificité de cette commission, tout en accordant l'amnistie aux bourreaux qui acceptaient d'avouer publiquement leurs crimes. Eh bien, 20 ans après, l'ancien archevêque Desmond Tutu, qui fut à l'initiative de cette commission, dresse un constat pour le moins accablant. Moins de 5 affaires ont fait l'objet de poursuites judiciaires. En tout cas, de nombreux pays africains se sont inspirés de ce modèle sud-africain. On peut citer par exemple la Sierra Leone, le Togo, plus récemment la Côte d'Ivoire ou encore le Mali. Alors quel bilan peut-on dresser? À quoi ont servi finalement toutes ces commissions vérité et réconciliation? Appelez-nous et on en parle ensemble dans 30 minutes. 33 9 693 693 70 09 693 693 693 70 si vous nous appelez de France et vous continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, comme tous les matins, ce sont vos questions à la rédaction, c'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes d'RFI. Une première question qui nous vient de Lomé. Bonjour Désiré.
Bonjour Juan.
Bienvenue.
Bonjour à tous. De la Radio Mondiale.
Alors vous avez plusieurs questions concernant les mesures prises il y a quelques jours par l'Église de France pour lutter contre la pédophilie.
Oui, la conférence épiscopale de France a fait sortir une série de mesures pour prévenir la pédophilie au sein de l'Église française. Je m'en vais demander, ces mesures sont-elles suffisantes?
Ah, ces mesures sont-elles suffisantes? Bonne question, en même temps question subjective. Raphaël Rennes, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste au service France d'RFI. Vous suivez ce dossier. Alors effectivement, il y a quelques jours, le Conseil permanent, qui est une sorte de gouvernement au sein de l'épiscopat français, a présenté tout un dispositif. Avant de répondre à la question de Désiré, on peut peut-être présenter en quelques mots les principales mesures.
Les 5 mesures, hein, en particulier celle dont on a le plus parlé, c'est la mise en place d'une cellule d'accueil, ou 2 cellules d'accueil au pluriel, puisqu'il y en aura une dans chaque diocèse. Et elles sont mises en place, bien sûr, pour pouvoir permettre à d'éventuelles victimes de venir raconter ce qui s'est passé, venir s'exprimer. La deuxième mesure, c'est la création d'un site internet dédié à cette question de la pédophilie. Il n'est pas encore en place, mais il a été annoncé. En attendant, une adresse internet, une adresse de courrier électronique a été mise en place pour permettre là encore aux victimes éventuelles de se faire connaître, de pouvoir s'exprimer. Création également d'une commission d'écoute indépendante. Elle sera présidée par une personnalité laïque et qualifiée et elle servira à conseiller les évêques sur la marche à suivre, sur ce qu'il faut faire, notamment quand il y a des prêtres qui ont été accusés par un ou plusieurs enfants d'avoir fauté. Et puis la quatrième mesure, la mise au jour des anciens cas d'agression. Donc ça, c'est une volonté de la part des évêques de revenir en arrière dans le passé et de ne rien taire. Et puis la cinquième mesure, c'est la transformation de la cellule de veille sur la pédophilie qui existe à l'heure actuelle. Elle va devenir permanente, là encore, pour conseiller l'Église de France.
Alors, ces mesures seront-elles suffisantes?
Alors, vous l'avez dit, c'est bien sûr très subjectif. Qu'est-ce que des mesures suffisantes? Ce qui va être déterminant surtout, c'est la manière dont elles vont être suivies, dont elles vont être utilisées par l'Église de France. L'Église de France qui est souvent jugée très fermée, encore, sur la question de la pédophilie. Et notamment une question, les victimes vont-elles avoir envie d'aller parler, de s'exprimer au sein d'une institution qui a de toute évidence eu du mal et qui a encore du mal à s'ouvrir complètement sur cette question? Alors, est-ce que les mesures seront suffisantes ou pas? Ça va dépendre de tout ça. Je crois que la phrase la plus importante à retenir de ce qui a été dit par la conférence des évêques de France, c'est celle de Monseigneur Pontier qui l'a présidé. Notre collaboration avec la justice doit être totale, a dit Monseigneur Pontier. La pédophilie est un crime. Il doit être dénoncé aux autorités et poursuivi selon les lois du pays où il a été commis. Et ce sont d'ailleurs précisément, Juan, les directives données par le pape François.
Voilà, que l'épiscopat français va devoir maintenant appliquer. Désiré, vous avez une autre question?
Oui, l'archevêque de Lyon pouvait-il démissionner comme le souhaitent certaines associations de défense des victimes?
Alors, L'archevêque de Lyon, le cardinal Barbarin, qui est visé par plusieurs plaintes hein, pour non-dénonciation d'agressions sexuelles commises par des prêtres dans son diocèse.
Oui, 5 plaintes hein, pour non-dénonciation de crimes, notamment à la suite de la mise en examen de ce père, le père Prénat, pour des actes pédophiles commis il y a plus de 25 ans sur des jeunes scouts lyonnais. Il est resté en activité jusqu'en août 2015. Ce père, il a été inculpé le 27 janvier après avoir reconnu les faits. Une association regroupant ces victimes reproche effectivement à Mgr Barbarin, l'archevêque de Lyon, de ne pas avoir dénoncé ces actes à la justice alors qu'il en était informé depuis 2007. Il y a maintenant 5 plaintes qui sont déposées. Légalement, le cardinal Barbarin risque 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Mais encore faut-il réunir 2 critères. D'abord que les faits ne soient pas prescrits, ce qui semble être le cas a priori dans la plupart des plaintes qui ont été retenues.
Et prescrit, puis, la prescrit, prescription c'est 20 ans, au-delà de 20 ans, ils sont prescrits.
C'est 20 ans. C'est aujourd'hui, dans le cas de viol, c'est 30 ans après 30 la ans. Connaissance des faits. Donc ça laisse quand même pas mal de temps. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que le cardinal Barbarin soit poursuivi, c'est-à-dire qu'il soit jugé effectivement suspect suffisamment et que donc il soit mis en examen. Alors pour répondre directement à la question de Désiré, s'il était mis en examen, la plupart des experts affirment qu'il démissionnerait.
Merci Raphaël Rennes d'être venu répondre à Désiré qui nous appelait de Lomé où il est 8h16. 33 9 693 693 70. On revient encore une fois sur le scandale des Panama Papers. Bonjour Pierre.
Bonjour Juan et bonjour encore.
Bien, vous êtes à Libreville, au Gabon.
Bien sûr, je suis à Libreville.
On vous écoute.
Oui, je disais qu'on a appris récemment que la banque Société Générale est impliquée dans l'affaire Panama Papers. J'ai donc 2 questions. Primo, comment est organisé ce business offshore orchestré par la Société Générale? Et puis, si je peux renchérir,
bien sûr.
Que risque le PDG de la Société Générale, M. Frédéric Oudéa, pour avoir soutenu en 2012 devant le Sénat français que la Société Générale avait fermé ses implantations dans des pays possédant des paradis fiscaux?
C'est vrai voilà que certains s'interrogent sur la sincérité à l'époque du directeur général de la Société Générale. Bonjour Pauline Glaise.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service Écho d'RFI. Alors effectivement, selon le quotidien Le Monde, le nom de la Société Générale figure sur la liste des banques impliquées dans ce scandale d'évasion fiscale. La Société Générale qui est épinglée pour avoir ouvert près d'un millier de sociétés offshore.
Ah oui, au total, la Société Générale en aurait créé 979 par l'intermédiaire du cabinet Mossack Fonseca. C'est du moins ce qu'affirme donc Le Monde après l'analyse des Panama Papers. Alors déjà, il faut resituer ses activités. Ces sociétés offshore auraient été créées entre 1977, c'est-à-dire à la création de Mossack Fonseca, et 2015. Aujourd'hui, il n'y en a plus que quelques dizaines qui seraient encore actives, mais selon Le Monde, la Société Générale aurait compté parmi les bons clients de Mossack Fonseca. Pour l'anecdote, on peut même dire qu'une offre promotionnelle aurait été envoyée à l'une de ses filiales. Pour ce qui est de l'organisation, Pierre, cela se serait passé loin du siège parisien et rien que géographiquement, c'est pas tout à fait facile à suivre. En fait, ce sont les filiales en Suisse, aux Bahamas et surtout au Luxembourg qui auraient géré ces dossiers, c'est-à-dire à distance du radar du super superviseur bancaire français. Mais attention, là où ça se complique, c'est que cela ne veut pas dire que les sociétés sont forcément domiciliées au Luxembourg, en Suisse ou au Panama. La SG Bank & Trust Luxembourg, par exemple, la filiale qui aurait créé les 2/3 de ces sociétés, en a domicilié une bonne partie aux Seychelles et dans les îles Vierges. Pour le reste, apparemment, il n'y a pas beaucoup de variations. Les structures auraient toutes été créées sur le même modèle. Les entités font appel à des prête-noms. En clair, ça veut dire que les dirigeants et les actionnaires inscrits officiellement étaient fictifs et les noms de ces faux responsables apparaîtraient même parfois à plusieurs niveaux dans la société.
En tout cas, tout cela paraît donc peu transparent, Pauline.
Et pour les enquêteurs du Monde, c'est même une évidence. Il y a eu volonté d'opacifier au maximum les montages pour qu'il soit compliqué de retrouver les vrais bénéficiaires. L'organisation ne serait pas seulement pensée pour protéger des avoirs et organiser une succession. Et en 2009, par exemple, quand les îles Vierges s'apprêtaient à lever l'anonymat des sociétés offshore, la filiale luxembourgeoise de la Société Générale aurait demandé au cabinet d'avocats Mossack Fonseca de créer des fondations avec prête-nom. Et elle aurait en enregistrer ses fondations comme actionnaire des sociétés ouvertes pour ses clients aux Caraïbes. Et même Mossack Fonseca semblait trouver à redire d'une telle opacité. Des courriels en 2014 montreraient que la banque a fait obstruction aux demandes d'information des autorités des îles Vierges britanniques sur les bénéficiaires réels des sociétés.
Ouais, ce que conteste, c'est important de le rappeler, la Société Générale.
Ouais, elle le conteste en partie au moins. La banque reconnaît qu'il y a quelques dizaines de sociétés offshore créées pour leurs clients qui sont encore actives. Mais elle assure que tout est géré avec la plus grande transparence. La Société Générale assure même qu'elle ne travaille en offshore qu'avec des clients dont les motifs sont clairs. Et Frédéric Oudéa, le directeur général de la banque, souligne aussi qu'il n'y a pas que la fiscalité qui puisse inciter à recourir à une entité offshore.
Alors, Pierre nous demandait que risque aujourd'hui le directeur général de la Société Générale qui, on s'en souvient, il y a 4 ans, avait témoigné sous serment devant la commission d'enquête sur l'évasion fiscale au Sénat et qui avait affirmé que la banque avait fermé ses implantations dans les pays qui figurent sur la fameuse liste grise des paradis fiscaux, que la banque ne travaillait plus dans les pays qui étaient jugés non coopératifs comme Panama. Que risque-t-il ?
Eh bien, il y a des sénateurs à qui ça n'a pas plu. Des sénateurs de gauche et écologistes ont réclamé des poursuites judiciaires pour faux témoignages. La peine encourue, si cela est effectivement porté devant les tribunaux, ce qui n'est pas encore sûr, c'est la même que celle pour faux témoignages devant une juridiction. Cela peut donc aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. En tout cas, Frédéric Oudéa conteste avoir fait de fausses déclarations. Il a rencontré la semaine dernière la présidente de la commission des finances du Sénat et lui a dit avoir répondu en 2012 avec la plus totale sincérité. Et selon lui, il n'y a pas d'incompatibilité. Le directeur général de la banque appelle à ne pas confondre une filiale de la banque et les sociétés détenues par ses clients. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre. Frédéric Oudéa sera auditionné par la commission des finances du Sénat début mai.
Effectivement, dans quelques semaines, et on précise que le siège de la banque a été perquisitionné la semaine dernière. Pierre, on a répondu à vos questions ?
Oui, parfait. Parfait, Juan.
Bonne journée à Libreville. Merci de nous écouter.
Merci,
au Gabon.
Juan.
10h21 à Paris, on remercie Pauline Glaise du service Écho des RFI. Ce sont vos questions, comme tous les matins, appelez-nous. Vous souhaitez mieux comprendre, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons tout au long de la journée dans nos différents journaux. Vous êtes les bienvenus. Surtout, n'attendez pas le début de l'émission pour nous contacter. Vous pouvez le faire à tout moment. 33 9 693 693 70. Bart nous appelle du Togo. Bonjour Bart.
Bonjour à mes, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous appelez d'où exactement ?
Après, d'Amblamé.
Ah, Amblamé, très bien.
Amblamé, oui, Amblamé au Togo.
Vous avez des questions sur le Yémen ?
Après plus d'un an de conflit au Yémen, un cessez-le-feu est conclu et est effectif depuis le 11 avril. Juan, quels sont les termes de ce cessez-le-feu ? Vu qu'Al-Qaïda est très actif dans ce conflit, fait-il partie de ces négociations ?
Alors, vous parlez du cessez-le-feu, de cette trêve, effectivement, qui est en vigueur depuis maintenant une semaine. Une trêve qui, disons-le, a été violée à plusieurs reprises depuis une semaine. Laurent Beautefoy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur au CNRS, spécialiste de la péninsule arabique et des mouvements salafistes. Avant de répondre précisément à la question de notre auditeur, de Bart, vous confirmez que le cessez-le-feu a plusieurs fois été violé depuis une semaine. Est-ce qu'on peut vraiment parler de trêve ?
Oui, alors il y a effectivement eu de nombreuses violations et d'ailleurs les représentants de la rébellion houthiste qui devaient se rendre au Koweït pour l'ouverture des négociations dès aujourd'hui refusent de le faire dès lors que les bombardements de la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite se poursuivent. Alors certes, sur le terrain, on a eu de la retenue plus que au cours des semaines passées, mais parler de cessez-le-feu est sans doute excessif aujourd'hui.
Alors évidemment, plusieurs forces sont sur le terrain. Il y a les rebelles houthis, il y a la coalition gouvernementale. Et puis il y a, comme le rappelait à l'instant Bart, des djihadistes. Il n'a cité que Al-Qaïda, mais on peut également citer l'Organisation de l'État islamique. Évidemment, ces deux groupes ne font pas partie des négociations, en tout cas pour mettre en place le cessez-le-feu.
Oui, tout à fait. Les groupes djihadistes font partie effectivement des groupes qui sont nombreux et qui ont été exclus des négociations, ce qui est très problématique. Par ailleurs, la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite et particulièrement les
Les pays du Golfe.
Les avions des Émirats Arabes Unis ont lancé au cours du week-end une vaste offensive contre les positions d'Al-Qaïda, comme une façon de montrer que l'offensive aujourd'hui menée n'a pas épargné en fait les groupes djihadistes, parce que c'était là bien une des critiques qui était adressée à l'égard de la coalition, disant que cette coalition se concentrait sur les houthistes et laissait de côté tous les groupes djihadistes.
Ouais, effectivement. Barthes, vous avez une autre question.
Oui. Le blocus international imposé au Yémen empêche tout ravitaillement de la population. Pourquoi est-il toujours maintenu ?
Alors, le blocus, effectivement, que subit le Yémen depuis un an, il empêche l'acheminement de la nourriture, comme le disait à l'instant Barthes, mais aussi de façon générale de toute l'aide humanitaire internationale. Et on sait tous que ce pays a besoin aujourd'hui de cette aide. Il y a 80% de la population qui a besoin d'une assistance humanitaire.
Oui, alors il est vrai que depuis le début du conflit, hein, les organisations humanitaires internationales, l'ONU tire la sonnette d'alarme. On est confronté à une grave crise humanitaire, c'est indéniable. Mais cette crise est très variable selon les régions. Et puis depuis, on va dire la libération entre guillemets des zones qui avaient été prises par les houthistes il y a un an, l'aide a été acheminée dans ces zones-là, particulièrement au sud. Après, il semble probable que cette crise humanitaire soit utilisée aussi comme une arme par les deux côtés pour simplement permettre de mettre la pression, de générer une pression internationale sur les adversaires. Ainsi, quand bien même il y avait un blocus qui était organisé par les houthistes sur la ville de Taiz, hein, qui était convoité par des forces locales, la coalition, alors même qu'elle en avait la possibilité, n'a pas largué de l'aide humanitaire, par exemple pour les civils. On sent bien qu'il y a d'une certaine manière une volonté des deux côtés de d'instrumentaliser cette crise humanitaire. Et puis par ailleurs, on peut tout de même noter qu'il y a une forme de mépris sans doute de la part des pays de la coalition pour les questions humanitaires stricto sensu, dans le sens où on a eu de nombreux bombardements de civils, de nombreux bombardements d'infrastructures de santé, qui illustre bien que sans doute la pression internationale est insuffisante et les critiques ne sont pas assez fortes pour engager la coalition dans une stratégie qui serait peut-être plus respectueuse de ces questions humanitaires.
Et on va suivre évidemment tout cela de très près, notamment avec donc ces négociations qui auraient dû commencer aujourd'hui au Koweït. Laurent Bonnefoy, merci d'avoir été avec nous. Merci à Barthes, hein, qui nous appelait du Togo. On avait prévu d'autres questions, mais il nous reste à peine une petite minute trente. Ce serait dommage de bâcler les explications de notre correspondant au Tchad, d'autant qu'on avait une question sur les résultats du premier tour qui tarde effectivement à être communiqué, du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche dernier. Donc on vous expliquera demain, Alberto, c'est promis, pourquoi il est si long au Tchad de compiler tous les résultats avant de publier les premiers résultats provisoires. Il est 10h28 à Paris. Dans deux minutes, les informations, la dernière édition d'Afrique Matin. Et tout de suite après, eh bien, nous vous donnerons la parole. Nous parlerons ce matin des commissions Vérité et Réconciliation en Afrique. Évidemment, avec en toile de fond l'initiative sud-africaine. C'était il y a maintenant 20 ans, jour pour jour, que s'ouvrait cette commission Vérité et Réconciliation pour faire toute la lumière sur les crimes commis durant l'apartheid. 20 ans après, Desmond Tutu, le prix Nobel de la paix, dresse un constat accablant. En tout cas, ce qui est intéressant, et c'est de cela que nous allons parler ensemble dans quelques minutes, c'est que de nombreux pays à travers le continent africain se sont inspirés du modèle sud-africain. Le Togo, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, prochainement la Centrafrique. À quoi servent finalement toutes ces commissions ? On en parle et évidemment, nous vous donnerons la parole. Des réactions déjà sur Facebook. Par exemple, un auditeur qui nous dit « Ces commissions ne servent à rien. Ce qui est important, c'est d'avoir une justice forte qui poursuive les criminels clairement identifiés. Seule la justice permet de réconcilier. Qu'en pensez-vous ? 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
Priorité santé. Claire Edon.